Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Son corps a été retrouvé dimanche dernier par un promeneur au sud de Vivonne, mais on ignore toujours ce qui a causé la mort d'Agathe Hilleret. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes du décès de la joggeuse. De nouvelles expertises sont en cours et le travail d'enquête se poursuit, notamment autour de la téléphonie. Elisa Trana.
C'est un promeneur qui a retrouvé le corps d'Agathe Hilleret dimanche dernier dans un sous-bois au sud de Vivonne où habitent ses parents. Plus de 3 semaines après sa disparition, dans une zone qui n'avait pas été couverte par les recherches de la gendarmerie.
Cette découverte permet d'avoir une scène, ce qu'on appelle une scène de crime, en tout cas un endroit où on va pouvoir faire des investigations.
L'étude des insectes, des œufs, des larves sur la scène de découverte permettra de savoir si le cadavre s'est dégradé sur place ou s'il a été déplacé. La première autopsie du corps n'a pas permis d'expliquer la cause de la mort de la jeune femme, mais des analyses plus poussées, des os, des organes notamment, devraient révéler si la victime a ingéré une substance, subi une agression ou succombé à un problème de santé, elle qui souffrait d'anorexie.
Il va falloir faire des analyses toxicologiques pour savoir si cette jeune femme a consommé par exemple des médicaments. Il va falloir faire un scanner pour savoir si le corps présente des lésions graves qui n'ont pas pu être vues à la première autopsie.
Les investigations techniques se poursuivent également. On ignore si le portable d'Agathe a été retrouvé près d'elle, mais il pourrait contenir de précieuses informations. Les premières recherches s'étaient d'ailleurs concentrées dans le périmètre du dernier bornage de ce téléphone. La jeune femme de 28 ans, qui avait l'habitude de courir une vingtaine de kilomètres, partageait ses itinéraires sur une application de course à pied.
C'est l'exploitation de ses réseaux sociaux, l'exploitation de son ordinateur. C'est également le témoignage, l'audition de toutes les personnes qui la connaissent. C'est ensuite les témoins que l'on va solliciter, les témoins extérieurs à la famille, au cercle amical et qui seraient susceptibles de l'avoir vue quelque part.
De nouvelles auditions et perquisitions pourraient avoir lieu. Chaque hypothèse est étudiée par un groupe de travail dédié. L'accident, le suicide, l'acte criminel, toutes les pistes restent ouvertes.
Voilà donc pour les dernières informations. Johanna Rosenblum est toujours sur le plateau, sur lequel nous accueillons ensemble Dominique Bernard-Marc. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez l'habitude de travailler le soir. Et bonjour, pardon. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes chef de service de l'unité médico-judiciaire au Grand Hôpital de l'Est francilien. On avait beaucoup de questions, évidemment, à vous poser avec Dominique. La première, c'est ce corps retrouvé, cette autopsie, qui ne permet pas d'établir les causes du décès. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'Agathe, où on retrouve ce corps, sans doute abîmé, dans la nature? Que permet l'autopsie? Comment se déroule une autopsie?
Alors là, il y a un corps qui est un corps dégradé. Donc il va falloir que l'on associe à l'autopsie des éléments très importants, des éléments d'imagerie, si on peut en avoir. Bien évidemment, l'imagerie scanner, ce qu'on appelle la virtopsie, l'autopsie virtuelle, qui permet de regarder s'il y a un corps étranger, un élément qui a pu ne pas apparaître, regarder s'il y a un projectile, par exemple. Et puis, des éléments qui vont être apportés sur tous les prélèvements qui sont effectués pendant l'autopsie. Des prélèvements avisés toxicologiques, comme on le dit, donc qui vont être à la fois du contenu gastrique, qui vont être du sang, en tout cas du sang manié, de l'urine, parce que très souvent elle reste et elle est très exploitable. Éventuellement d'autres fluides qui sont intéressants, le liquide céphalo-rachidien peut être prélevé. Tout ça va permettre une analyse toxicologique. Et enfin, sur les prélèvements qui sont faits, sur tout ce qui a été observé, des prélèvements très importants, comme ceux du cœur, ceux des poumons, ceux de la boîte crânienne, si le cerveau est très dégradé, il y a en tout cas la dure mère qui l'enveloppe, qui est intéressante et qui peut nous indiquer s'il y a eu un saignement ou pas.
Qu'est-ce qu'on cherche, docteur? Là, on cherche des toxiques dans ce cas-là?
On va éliminer un certain nombre d'hypothèses. La première, y a-t-il eu une intoxication de la personne? Ou était-elle sous l'effet de produits qui peuvent être des produits dopants? On imagine bien, dans la pratique sportive, quelquefois, cette utilisation. Donc, ces éléments-là qu'on va essayer de retrouver. Sur les liquides qui sont prélevés, c'est un peu plus compliqué de le faire en toxicologie dite analytique, c'est-à-dire qui analyse et qui peut les reprendre, mais on peut analyser, retrouver ces produits, les doser, comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Il y a d'autres éléments, est-ce que cette personne était habituée à prendre des toxiques? Eh bien, ce sont ses cheveux qui vont pouvoir l'indiquer. Ouais. Les cheveux vont être imprégnés de substances qui ont pu être prises et qui ont pu avoir un effet. On imagine bien, dans des cas de dopage, par exemple, c'est pour ça que cette technique a été particulièrement mise au point notamment dans le dopage sportif depuis des années, eh bien de regarder si un sportif n'a pas utilisé des anabolisants ou un produit quelconque qui aurait pu avoir un effet. On sait qu'elle était d'une santé fragile. Donc, par exemple, dans certains produits alimentaires survitaminés, en tout cas utilisés, on peut quelquefois avoir des produits qui sont limites et qui peuvent occasionner des troubles de santé.
Et sur l'enveloppe de la dure-mère dont vous parliez tout à l'heure, l'enveloppe du cerveau, là... On cherche quoi? On cherche des hématomes, traces de coups, par exemple?
S'il y a eu un hématome, le cerveau va être 3 semaines plus tard probablement très liquéfié, très difficile à analyser. Mais s'il y a eu un hématome, il a laissé une coloration et elle va être visible, et surtout elle va être visible au microscope. L'analyse microscopique de la dure mère va permettre de regarder s'il y a eu une infiltration et de dire il y a eu un hématome extradural, c'est-à-dire entre le crâne et cette dure mère qui enveloppe le cerveau, ou sous-dural entre cette dure mère et le cerveau lui-même.
Le corps est découvert il y a une semaine. On en parlait d'ailleurs, c'est dimanche par un promeneur. On en parlait
au même moment,
effectivement. Et dans la semaine, on apprend l'autopsie n'a pas permis de déceler et d'établir avec précision les circonstances du décès. On prend ça comme une forme d'échec d'un point de vue extérieur. Pour autant, on se dit que pour celles et ceux qui continuent de travailler, il y a des portes qui sont fermées. Il y a des hypothèses qui sont désormais complètement écartées. C'est aussi comme ça qu'il faut voir cette première communication. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé les causes les plus évidentes. Elle n'a pas été heurtée par un véhicule qui l'a renversée. Des fractures multiples, on aurait ces éléments-là. Il n'y a pas de plaie par balle multiple avec des projectiles, etc. Et puis, on va regarder, puisqu'on a regardé macroscopiquement, lors de l'autopsie, à l'œil nu, et bien maintenant on va regarder microscopiquement, et sur tous les prélèvements qui sont faits, ce sont les anatomopathologistes qui vont prendre ces prélèvements, les regarder.
Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est un nouveau mot, j'apprends un nouveau mot, de quoi vous parlez précisément?
Lorsqu'on a un organe, et bien on va pouvoir l'analyser en le regardant extérieurement. C'est l'œil du chirurgien sur le vivant. Et puis, on va faire une biopsie.
Très bien.
Et cette biopsie, c'est l'anatomopathologiste qui va regarder l'intérieur des tissus. Eh bien, post-mortem, c'est la même chose. Le chirurgien, c'est le médecin légiste. Et l'anatomopathologiste va regarder le tissu.
Ok. Moi, j'ai une petite question. On sait qu'elle avait un trouble du comportement alimentaire. On parle d'anorexie mentale. C'est une jeune femme qui pesait 35 kilos. C'est à peu près le poids d'une jeune fille de 10 ans. Si on imagine qu'elle était en souffrance, qu'elle avait peut-être un traitement basé sur des anxiolytiques, des antidépresseurs, tout ça mêlé à une pratique de sport intensif, parce que je crois qu'elle courait plusieurs fois par semaine.
Hein. C'est quasiment tous les jours.
Est-ce qu'on peut imaginer que des problèmes cardio-respiratoires, de tension, aient fait que ça lâche à un moment donné? Et est-ce que ça peut se voir lors de vos analyses?
Oui, on va avoir ces éléments-là. On sait très bien qu'il y a des comportements d'hyperactivité chez les anorexiques, et on va avoir à la fois des problèmes cardio-pulmonaires, mais dans les problèmes cardio-pulmonaires, essentiellement des problèmes de troubles du rythme. Et donc, sur les faisceaux cardiaques qui ont pu être prélevés, on va regarder s'il y a une anomalie, s'il y a des éléments de ce type. Et sur un tissu cardiaque, on pourrait avoir des éléments qui vont nous révéler un infarctus partiel. Là encore, microscopique. C'est au microscope qu'on va pouvoir le voir, puisque l'état du corps ne permet pas de le voir à l'œil nu.
Alors, pas de fracture, donc elle n'a pas été renversée par une voiture, pas de traces de projectile, elle n'a pas reçu, elle n'a pas été blessée par un coup de feu. Si elle a été tuée, ou si elle a reçu un coup de couteau, est-ce qu'on va, à moins que le couteau évidemment ait heurté
les
côtes et laissé une trace, mais si elle a reçu un coup de couteau, est-ce qu'on peut, 3 semaines après, dans les chairs, ce qui reste des chairs, savoir que c'est ce qui s'est passé?
Alors, s'il y a une plaie profonde, oui, parce que ça a touché, pour qu'elle occasionne le décès, elle a touché un organe important, un organe plein, par exemple, de l'abdomen. On y aurait une plaie du foie, par exemple, où elle a sectionné un gros vaisseau. Il faut bien comprendre que la peau va être très dégradée, les tissus superficiels vont être dégradés, mais pas l'intérieur du corps. Donc, les poumons sont encore visibles, le cœur est encore tout à fait visible, un foie va l'être aussi, il est dégradé, mais s'il y a une plaie, elle va être visible, notable. Donc, tous ces éléments-là seront des éléments. Néanmoins, elle serait sortie de la première autopsie, puisqu'on aurait vu ces éléments importants. Mais des petites lésions, un coup par un poinçon qui peut être plus discret, ou des éléments de ce type, peuvent ne pas avoir été vus et seront vus sur les éléments histologiques. Là encore, c'est le microscope qui va nous aider.
On a beaucoup parlé, évidemment, sur BFM TV et dans l'affaire suivante, de la disparition et de la mort du petit Émile. Certains avaient découvert qu'il y avait évidemment ce que l'on trouvait au cours d'une autopsie, en l'occurrence des griffures sur le crâne, un choc frontal, Et puis il y a aussi ce que l'on découvre dans l'environnement où est découvert les insectes. On a même étudié une jardinière.
Est-ce que là aussi les restes de vêtements.
Les restes de vêtements. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui peut permettre d'établir la vérité du déroulement des faits? Est-ce que c'est le travail qui se déroule en ce moment hors des caméras de BFM TV?
Alors, bien évidemment, lors de l'autopsie, il y a des éléments qui sont prélevés. On a prélevé les vêtements, elle était habillée, donc on a prélevé ses vêtements et ils vont être séchés, puis analysés pour regarder de l'ADN, pour regarder aussi qu'il n'y a pas sur les vêtements de plaies, des fractions. On parlait de plaies à un instant. S'il y a une plaie à travers qui a touché le corps, elle est passée à travers les vêtements, donc les vêtements aussi vont pouvoir parler. Donc les laboratoires de police technique et scientifique travaillent. Le corps a été retrouvé à un endroit, il y a aussi les gendarmes qui ont creusé autour pour pouvoir rechercher des pupes d'insectes pour savoir quel type d'insectes peuvent être là, ce qu'on appelle l'entomologie médico-légale. On va rechercher ces insectes, on va les faire croître, on va éventuellement les comparer avec des larves qu'on aurait pu trouver sur le corps et donner une idée du délai. Donc tout le monde travaille sur ces éléments. L'autopsie a servi à prélever et à donner aux uns et aux autres des éléments sur lesquels les laboratoires sont en train de travailler à l'heure actuelle.
Ça peut prendre combien de temps, le résultat de ces analyses supplémentaires post-autopsie?
Alors, à chaque fois, vous avez des temps qui sont liés à la technique. Quand vous devez avoir des pupaisons et regarder sur des insectes, il va falloir que la pupe croisse, puis que l'insert sorte, puis qu'il grandisse, puis qu'on l'identifie exactement. Donc, ça met le temps de l'évolution de cette espèce-là, qui sont souvent en termes de semaines. Des vêtements, il va falloir qu'ils soient impeccablement séchés, puis ensuite travailler sur l'ADN, ça peut là encore prendre des semaines. Les prélèvements toxicologiques, si les prélèvements vont être abîmés, dégradés un petit peu, il va falloir les traiter avant de pouvoir les analyser, et là encore, on est en termes de semaines. Donc on aura probablement, dans quelques semaines, des éléments beaucoup plus probants qui reposeront sur ces analyses. L'étude, par exemple, des fragments qui ont été prélevés, mais il y a obligatoirement une fixation dans le formol qui doit être de 2-3 jours au minimum, puis une préparation en paraffine, puis une analyse. Vous voyez, donc tout ça, ça prend du temps.
Docteur, vous êtes dans une enquête judiciaire à ce moment-là, quand vous pratiquez une autopsie, ce que vous faites régulièrement. Qu'est-ce qui est avec vous dans la salle d'autopsie et pourquoi faire? Comment ça se passe?
Alors, dans la salle d'autopsie, il y a les enquêteurs, parce que c'est important, mais il va y avoir surtout la police technique et scientifique. Là, dans le cas, ce sera la gendarmerie, l'officier de police judiciaire. Il va y avoir de très nombreuses photos. Il va y avoir
un juge d'instruction, un substitut, un proc.
Alors, éventuellement, il y a un magistrat. Très largement, ce sont les enquêteurs qui vont être là. Très largement, ça va être tous les techniciens de cette police technique et scientifique ou les techniciens d'identification criminelle, si c'est de la gendarmerie, pour pouvoir prendre les prélèvements, le faire de façon adéquate, les mettre sous scellé, éviter qu'il y ait des contaminations. On est à l'heure où l'ADN peut contaminer, ouais. Donc tout le monde devra être équipé correctement.
Et à chaque geste technique, les vôtres, vos gestes techniques, vous commentez?
À chaque geste technique, on va commenter et tout ça va être recueilli. Il y a aussi quelqu'un qui prend les notes, qui fait un pré-rapport déjà, des officiers de police judiciaire. Chaque geste est aussi documenté par la photographie.
Est-ce que quand il y a intervention d'un tiers extérieur, meurtre, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, avec les moyens qui sont à votre disposition, est-ce qu'on peut échapper à l'établissement de la vérité quand il y a un meurtre? Si Agathe a été victime de quelqu'un, est-ce que ce potentiel responsable peut encore échapper à la vérité?
Alors, on a beaucoup d'éléments. La médecine légale va répondre à plusieurs questions. Elle va répondre à qui est-ce, quel est le corps, quelle est l'identification. Vous voyez, elle peut parfois être compliquée. Dans le cas du petit Émile, elle a été beaucoup plus compliquée que pour Agathe. Quand est-ce que ça s'est passé? Où a eu lieu ce décès? Le corps a-t-il été déplacé ou pas? Ce sont des éléments. Comment? Quelle est la nature du décès? Et puis, si le décès est criminel, eh bien, il y a le travail des enquêteurs. Parce que si nous, on peut vous dire le décès a été occasionné par un tir d'arme à feu ou par une plaie par arme blanche, qui tenait l'arme? Eh bien, c'est l'ADN qui va le dire et c'est l'enquête qui va le dire.
Et ce corps assassiné, meurtri, il faut le remettre à la famille ensuite.
C'est ça, j'écoute, c'est vrai que c'est passionnant d'entendre le travail de la médecine légale. C'est vraiment un travail ultra précis qui se fait souvent dans l'ombre. Et dites-vous que derrière, il y a effectivement des parents, comme vous dites Dominique, qui entendent tout ça, qui peinent du coup à commencer une étape de deuil. C'est vrai que la découverte du corps, c'est le début d'un nouveau travail pour les parents qui sortent
d'une phase d'espoir possible à une phase de réalité. Mais pour pouvoir entamer un deuil, il faut aussi parfois pouvoir se recueillir et se recueillir sur un corps en paix. Et pour l'instant, la science, la police, les médecins doivent travailler. Donc c'est une famille qui est aussi meurtrie et qui continue de souffrir, d'apprendre ou d'attendre, d'apprendre tout ce que le corps a révélé encore. Donc j'espère que cette famille est bien accompagnée.
Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'affaires suivantes. On suivra évidemment les résultats de ces analyses supplémentaires. Merci beaucoup.